Tout à l'heure, pendant la pause, j'échangeais avec quelqu'un et à propos de la façon dont nous acceptons la souffrance, et dans cet autre livre aussi, il y a d'autres aspects que j'aimerais vous faire partager. C'est Etty Elysium, vous connaissez, voilà. Nous avons le droit de souffrir. Pardon ?
Non, c'est parce que Monique n'entend pas bien.
Ah, Etty Elysium. Qui est cette martyre juive de la dernière guerre ? Nous avons. Enfin, la dernière. Non, jamais la dernière. Dernière guerre mondiale, dite mondiale. Nous avons le droit de souffrir, pas de succomber à la souffrance. Nous avons le droit de souffrir, pas de succomber à la souffrance. Cet amour de la vie qui se déploie en Etty n'est pas du romantisme naïf ou une fuite de la réalité. Bien au contraire, il est accueil de la réalité telle qu'elle est, consentement à tout ce que la vie offre, sans exception, les joies comme les peines, le bonheur comme la souffrance, la douceur d'un moment d'amitié comme la perspective d'une séparation. En voyant la manière dont beaucoup de personnes réagissent aux difficultés du temps présent, par la peur, l'angoisse, en cherchant à tout prix à sauver leur peau, fût-ce parfois au prix de celle des autres, Etty réalise de manière très aiguë que le vrai problème de la vie humaine, le vrai problème de la vie humaine, n'est pas tant la souffrance en elle-même que la peur qu'elle inspire, l'incapacité à l'accueillir et à l'assumer. L'inquiétude qu'inspire la souffrance fait plus de mal que la souffrance elle-même. Et ce qui est vrai pour nous-mêmes, nous devons savoir le lire chez les autres et les aider à dépasser justement ce qui est dit, précisé ici, cette incapacité à l'accueillir, parce qu'on ne peut pas l'éviter, parce qu'elle est une réalité et parce qu'on ne peut pas faire autrement que l'assumer. L'inquiétude qu'inspire la souffrance fait plus de mal que la souffrance elle-même. C'est très important de saisir cela. Les pires souffrances de l'homme, ce sont celles qu'il redoute. Notre cher père Maël, monseigneur Maël, disait « un problème prévu est un problème créé. » C'est-à-dire que le fait de se projeter en imaginant que de toute façon ça va mal se passer, nous nous mettons dans les conditions pour que effectivement ça aille dans ce sens-là. Les pires souffrances de l'homme sont celles qu'il redoute. Il s'efforce donc, avec des hauts et des bas, d'accepter comme bon tout ce que la vie concrète lui propose instant après instant. C'est vrai que dans la souffrance, déposer cette souffrance et tout ce que l'on est dans cette pauvreté qu'elle implique dans la présence de Dieu, dans l'amour de Dieu, sur la croix, avec la croix du Seigneur, implique de le faire instant après instant, sans projection. C'est difficile de faire le silence intérieur. C'est difficile d'établir dans cet abandon, faire silence pour ne pas être happé, pour ne pas être immergé par l'angoisse, par la peur et par toutes les réactions que peut susciter en nous c'est le fait d'être dans la souffrance. Mais le Seigneur nous aide aussi à entrer dans cette paix intérieure. Comment peut-on être en paix alors qu'on souffre ? Oui, c'est possible. Ça peut paraître étonnant, mais c'est possible. Parce que ce qui nous est donné ne vient pas de nous, vient de Dieu. La souffrance, nous le savons, ne va pas s'atténuer, ou du moins ne va pas disparaître, Elle va s'atténuer dans cet abandon, ça c'est sûr. Mais elle ne va pas forcément disparaître parce que je me mets à prier, parce que je dis, voilà Seigneur, je te dépose cette souffrance. Cette croix ne me sera probablement pas enlevée tout de suite. Mais ce qui est mystérieux, c'est que je vais la vivre comme un vrai chemin de vie auquel je vais, il me sera donné d'y voir un sens profond, réel. Il y a là certainement un texte qui vient d'Etty également. « De tes mains, mon Dieu, j'accepte tout, comme cela vient. C'est toujours bon, je le sais. J'ai appris qu'en supportant toutes les épreuves, on peut les tourner en bien. Toujours, dès que je me montrais prête à les affronter, les épreuves se sont changées en beauté. » Les épreuves se sont changées en beauté. Ce sont des paroles extraordinaires, ça. De quelqu'un qui a vécu ces épreuves. Et qui a pleinement accepté ce qui se passait, tout ce qui allait plus tard la conduire dans un camp d'extermination. Je crois qu'elle est morte dans un camp d'extermination. Et... c'est pour ça qu'on peut lire ces lignes aujourd'hui. Parce qu'elle est un guide pour nous. Elle est un maître spirituel pour nous. Elle a accompli pleinement cette vie en Dieu. Quel témoignage, alors que c'est en... elle avait quel âge ? Elle était très jeune.
Hein ?
Voilà.
C'est un témoignage qui dépasse toutes les religions.
Absolument. Parce que la vraie religion, c'est l'amour. Oui, mais la vraie religion, c'est l'amour.
Elle ne pouvait pas monter dans ce train de la mort. On lui avait dit qu'elle pouvait être sauvée, elle n'allait pas monter dans ce train de la mort, mais elle ne voulait pas prendre la place. Alors ça aurait été quelqu'un d'autre qui aurait été à sa place.
Bien sûr.
Je trouvais ça déjà extraordinaire. De ne pas vouloir, alors qu'elle peut être sauvée, elle a dit non, parce que donc, il y aura quelqu'un d'autre qui sera là à ma place.
Et ça, on ne peut pas penser un seul instant qu'elle aurait dit non. C'est le sens même de la réponse à l'amour, mais c'est le sacrifice ultime aussi, où on peut tout donner. Et ça nous dépasse tellement. Il y a, vous connaissez les Julienne de Norwich ? Vous ne connaissez pas Julienne de Norwich ? Personne ne connaît Julienne de Norwich.
J'ai entendu parler, oui. Julienne de Norwich.
C'est une anglo-saxonne. Quand on a Norwich. Mais elle a vécu au XIVe siècle. C'est une grande mystique. Et elle dit évidemment des choses très belles. Providence de Dieu. Est-ce que nous pouvons considérer que lorsque la souffrance ou l'épreuve nous visite, elle est providence divine ? Alors dans la foi, oui, quand ça nous arrive, moins. Mais c'est là qu'on doit faire la providence, de découvrir par ce miracle que nous donne, cette force intérieure que nous donne la foi, qui est un don que Dieu nous fait, pour que nous puissions justement être en mesure d'accepter l'inacceptable. Et voilà que la souffrance, qui de l'extérieur paraît tout le contraire de l'acceptable, tout le contraire de ce que, quand on a une vision spirituelle, justement, l'idée que ça puisse être providentiel, que ça puisse être un chemin de vie extraordinaire, que ça puisse être une régénération de l'être, on ne peut pas avoir cette vision-là avec un esprit du monde. Mais voilà que dans la foi, nous pouvons avoir cette vision. Quand je vous disais tout à l'heure, j'espère que Dieu m'a inspiré cette parole, quand je vous disais, en parlant de Myriam, que c'était elle qui était normale au sens spirituel et que nous n'étions pas normaux. Que cette parole, je voudrais qu'elle ne soit pas un mot, un bon mot, si je puis, si on peut s'exprimer ainsi, facile, mais qu'au contraire, ça nous donne une grande, comment dirais-je, admiration pour ce qu'elle vit et pour ce que d'autres vivent, Marthe aussi. Qu'est-ce que nous savons de tout ça? Nous devons nous incliner. Parce que nous sommes aussi à la rencontre du Christ souffrant qui se révèle à nous dans un mystère qu'on ne peut saisir qu'avec le cœur. Il n'y a pas d'explication. Et il nous faut avoir cette humilité de nous agenouiller en disant « Seigneur, quel grand mystère! Aide-moi à entrer dans la réalité de ce mystère. » Alors on nous dit « Oh oui, mais attends, je suis pris comme ça, il va m'arriver des bricoles, quoi. » Possible. Mais le Seigneur, ce n'est pas comme ça qu'il s'y prend. Nous n'avons pas le même itinéraire, mais il est certain que je crois que nous devons, au terme presque maintenant de cette journée de méditation ensemble sur ce thème, qui est le cœur, encore je vous le rappelle, de la vie chrétienne, du mystère de la rédemption. C'est face à ces sœurs ou à tous ces frères et sœurs qui souffrent et qui sont dans cet abandon-acceptation, oui, nous pouvons nous agenouiller et nous dire, vraiment avoir être dans l'action de grâce et en même temps nous dire, mais Seigneur, révèle-moi ce mystère. Fais-moi entrer dans ce mystère. Je ne peux pas partir, quitter cette vie sans entrer dans ce mystère, dans ma vie personnelle et dans ma vie communautaire. D'ailleurs, une vie personnelle est toujours communautaire. Nous sommes toujours liés aux autres. Julienne de Norwich nous dit dans une méditation, elle a eu des révélations. Il nous est dit là pour le... Julienne naquit à Norwich. Alors, peut-être que c'était une secte, après tout, parce que ça ne veut rien dire. Norwich, au fond, c'est une ville anglo-saxonne. Donc, dans le Norfolk, en 1342, au cours d'une grave maladie, elle reçut, le 8 mai 1373, 16 manifestations ou visions de Notre Seigneur. Je rappelle que souvent, ce sont des femmes qui ont ces révélations. C'est vrai? Et je crois que ça correspond bien à la nature des femmes. Je dirais presque que c'est un charisme. Et ça devient même un ministère. Donc, ces femmes, lorsqu'elles transmettent ces visions, qui changent énormément de choses, qui sont une... Vous voyez, on est là au XIVe siècle, et aujourd'hui, nous sommes en train de lire et d'étudier, de continuer de méditer ces écrits qui sont une nourriture et une richesse extraordinaire. C'est intemporel, éternel. 16 manifestations aux visions de Notre Seigneur. Pendant de longues années, menant une vie de recluse dans une cellule près de Saint-Julien, elle réfléchit sur le sens de cette expérience spirituelle et presque 20 ans après, écrivit les révélations de l'amour divin qui la place parmi les grands mystiques anglais. De sa vie, nous ne savons rien de plus. Ses révélations, cependant, nous la font connaître mieux que toute biographie. Voilà ce qu'elle dit en ce qui concerne la providence de Dieu. « Je vis qu'en vérité, Dieu fait toutes choses, si petites soient-elles, et je compris que rien n'arrive par hasard, mais que tout est dû à la sagesse prévoyante de Dieu. » Si, aux yeux des hommes, les choses semblent être le résultat du hasard, c'est que nous sommes aveugles ou à courte vue. Car les événements qui sont dans la prévoyante sagesse de Dieu depuis l'éternité, lesquels il les conduit sans cesse avec une perfection digne de toute louange, nous arrivent subitement, à l'improviste. C'est pourquoi, dans notre aveuglement, et avec notre courte vue, nous les attribuons au hasard, ou nous allons les attribuer, j'ajoute, c'est mon interprétation, j'ajoute que nous pouvons aussi nous dire « c'est à cause d'eux », parce que nous nous justifions facilement sur les événements, sur les personnes qui nous paraissent la cause de ce que nous subissons. Et là, il nous est dit « mais tout est providence, Dieu sait ». Dieu, cependant, sait qu'il n'en est pas ainsi. Alors, il convient de reconnaître que tout ce qui se fait est bien fait, car c'est Dieu qui fait tout. Alors là, on se dit, mais Dieu ne peut pas vouloir tous les drames qui se passent dans cette planète, dont nous sommes, évidemment, nous savons que nous sommes responsables. Et c'est pour ça que certaines personnes se tendent le poing vers le ciel en disant « Pourquoi tu permets ça ?» Dans notre vie personnelle, il faut parfois une grande épreuve pour nous remettre sur le droit chemin. Je vous disais ce matin, à propos des dérèglements climatiques, mais pas seulement que ça, mais tout le trouble que nous avons provoqué dans l'équilibre des écosystèmes de la planète, les milliers d'espèces que nous avons anéanties par notre avidité, il faut savoir que les conséquences viennent très progressivement. Même si aujourd'hui on arrêtait tout, en se disant on n'émet plus de gaz à effet de serre, on revient à la traction animale, ce qui n'arrivera pas évidemment, sauf s'il n'y a plus rien et qu'il n'y a plus que ça sur Terre, mais les effets se continueraient pendant des décennies, et même pour des pollutions évidemment pendant des centaines d'années. Dans notre vie, c'est la même chose. J'ai entendu un jour un rabbin enseigner, je ne me souviens plus de son nom, qui disait que le péché a commencé quand l'homme a cessé d'adorer Dieu avec ferveur. Quand l'homme a cessé d'adorer Dieu avec le cœur, à ce moment-là, il est entré dans une distorsion entre Dieu et l'homme. Parce qu'on n'adore plus, on ne prie plus avec le cœur, ce qui est vrai dans nos liturgies, dans ce que nous avons évoqué ici, aujourd'hui. Et que les conséquences de cela, il y a une lente dégradation qui fait que lorsque des événements terribles arrivent, ce sont des conséquences qui prennent leurs racines des siècles avant. Mais notre incapacité, notre ignorance, notre aveuglement fait que nous ne sommes pas en mesure de comprendre cela. Et pourtant, ce qui arrive, est-ce que Dieu ne nous a pas protégés ? Parce que nous le prions de nous protéger. Dieu nous protège. Mais il y a un moment où il n'y a plus d'autre solution pour l'homme, pour l'empêcher de détruire et de faire plus de mal. Eh bien, il arrive des guerres terribles, il arrive des catastrophes terribles. Alors on se dit, oui, mais tous ces innocents qui meurent, oui, mais regardez, à cause de la pollution, toutes les déformations de pauvres bébés qui... C'est vrai, mais c'est notre responsabilité. Et lorsque il n'y a plus rien à faire que d'être en face de cette évidence, ça veut dire que c'est la seule façon de nous ouvrir les yeux. Dieu n'a plus d'autres ressources que ça. C'est terrible, ça. Dieu n'a plus d'autres moyens. Il a essayé de nous avertir. Il a envoyé des prophètes. Il a vraiment envoyé des signes nombreux depuis des décennies, voire peut-être des siècles. Et nous avons continué dans notre aveuglement jusqu'au jour où il n'y a plus d'autre solution que d'être en face de conséquences terribles. Parce que les conséquences, même, il y a des conséquences toujours dans l'histoire, des épreuves toujours, mais il y en a qui sont terribles, tragiques. Et ça veut dire qu'il faut ouvrir les yeux, et pas seulement sur le plan personnel, mais sur le plan de toute une humanité. Et on se dit, Dieu nous a abandonnés. Non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Il est là, plus que jamais, souffrant avec nous, plus que jamais. Est-ce que ça va nous réveiller? Est-ce que nous allons nous réveiller pour que de continuer, cesser de faire le mal que nous faisons? Est-ce que nous allons prendre conscience? Est-ce que nous allons faire en sorte que inverser cette courbe tragique où le mal continue de dominer le monde? Est-ce que nous allons nous réveiller? Vous savez, le temps de l'Avent, que je vous l'évoquais ce matin, c'est le temps de l'éveil, de se réveiller. C'est le temps de la vigilance, c'est le temps de la prise de conscience. Au sein, plus on descend dans les ténèbres, plus on prend conscience de ces ténèbres et en même temps de la proximité de ces extraordinaire présence divine. C'est le temps aussi, nous allons éveiller en nous cette nostalgie qui nous habite. La nostalgie du paradis perdu, la nostalgie du règne de l'amour, la nostalgie du temps où toutes les êtres et les choses étaient en pleine communion en Dieu. La nostalgie où l'homme était véritablement le prêtre, le jardinier de cette création, où il n'asservissait pas la création pour réaliser ses désirs morbides, mais au contraire, élevait cette création par cette élévation spirituelle, parce que l'homme est la conscience spirituelle de la création. Notre planète tout entière n'est pas une personne en tant que telle, mais elle a le désir de s'hypostasier, c'est-à-dire de devenir une personne dans cette conscience humaine, cette conscience spirituelle, où tout en se donnant totalement à Dieu, c'est toute la création en nous qui se donne à Dieu et qui aussi est appelée à être transfigurée. Notre planète est appelée à devenir une terre illuminée. Il est le point central, Dieu est le point central vers lequel toutes choses convergent. Et il veut que nous sachions qu'il nous garde une même sécurité aussi bien dans le malheur que dans le bonheur. Curieusement, Dieu est plus proche de nous dans le malheur que dans le bonheur, à condition évidemment que nous observions tout ce que nous avons médité ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire que ça provoque une ouverture du cœur. Oui, Dieu peut être plus proche et soudain répandre sa grâce dans le malheur plutôt que dans le bonheur. Un bonheur souvent qui est insouciant. Alors, on ne va pas se plaindre d'être dans le bonheur, on est bien d'accord. Mais souvent, je parle que ce que nous appelons le bonheur est souvent une insouciance où nous vivons dans le péché, comme on dit, c'est-à-dire loin du cœur, dans la satisfaction de ce qui nous paraît normal, de tous nos désirs, sans se rendre compte qu'on est en train de préparer les épreuves à venir. Ce que disait ce rabbin à propos de justement que dès qu'on n'adore plus Dieu avec ferveur, avec cœur, dès qu'on ne le sert plus dans chaque chose du quotidien, comme il y a quelques années nous avons donné une conférence lorsque nous faisions des colloques sur le christianisme celtique, une conférence sur les traditions dans les Highlands en Écosse. Toutes ces traditions, des traditions collectées par un homme qui s'appelait Alexander Carmichael et qui, avant que ça disparaisse, a collecté des prières, des chants, des coutumes. Et alors, on se rend compte que nos ancêtres, chez les Celtes en particulier, il y avait là une tradition qui remonte dans la nuit des temps où on priait pour tout, on bénissait tout. Chez tous les gestes, on allait traire les vaches, on prie, et il y avait une prière pour traire les vaches. Il y avait une prière pour aller à la pêche, évidemment, pour revenir de la pêche. On avait des prières pour presque tous les actes. Et le soir, évidemment, comme on n'avait pas d'allumettes, il n'y avait pas de gaz, etc., on conservait le feu qu'on recouvrait, mais il y avait une prière et on séparait la cendre, on recouvrait avec de la cendre, et on faisait trois, on la séparait en trois au nom de la Trinité, parce que le feu, c'est le symbole de l'amour trinitaire. Et le matin, il y avait une autre prière quand on réanime. Tout était prière, tout était glorification de Dieu, tout était présence de Dieu. Et on rapporte aussi qu'une mère qui emmenait ses enfants dans l'arrière-cour, à la campagne, le matin, et leur disait « Écoutez tous les oiseaux qui chantent. Depuis l'aube des temps, toute la création glorifie, chante le Seigneur. Est-ce que nous ne devrions pas en faire autant ?» Et donc il y avait cet état d'esprit que nous avons perdu. Nous vivons une vie très matérialiste. Alors nous le savons ça, nous essayons de l'appliquer. Mais cela signifie que ces gens-là qui avaient une vie simple, une vie mais ils étaient dans cette, inscrits dans cette harmonie universelle qu'ils n'avaient pas vraiment perdue, et ils continuaient de, comme des oiseaux qui ne cessent de chanter, eh bien, de louer le Seigneur à travers toutes les activités de la vie. Il y a des prières innombrables. Et durant cette conférence, on avait de même d'ailleurs donné des extraits de vieux chants, vieilles mélopées celtiques qui avaient été récupérées par la tradition cistercienne, je crois, trappiste, mais où on retrouvait ces racines, ces mélopées, et qui étaient fort belles, très très belles. Donc, nous devons nous redécouvrir ça, parce que c'est un héritage que nous avons et que nous pouvons employer. Alors vous me direz, mais tu parles bien toi, mais où sont ces prières? Je devance au cas où, je ne sais plus où. Mais c'est vrai qu'il y a, alors ces prières, souvent, elles sont traduites du gaélique, de l'écossais, on dirait aujourd'hui, en anglais, ensuite on transforme ça en français. Traduction après traduction, on ne sait plus très bien si c'est... Mais enfin, il y a quand même un esprit, et je pense qu'il y a de très belles choses dont on pourrait s'inspirer. Par exemple, on a une prière que nous chantons à chaque fois qu'il y a une ordination, un baptême, enfin un événement quelconque comme ça, et c'est une prière très ancienne, probablement antérieure au christianisme, qui a été christianisée, où on demande à tous les éléments, à la création en quelque sorte, de bénir la personne sur laquelle on appelle la bénédiction. Comme si Dieu, à travers sa création, nous bénissait. Je vais pas continuer sur ce registre. Alors, je ne sais plus, j'avais peut-être encore quelque chose à vous lire. Mais je crois que je vais m'arrêter là. Il y a un chapitre, souffrir avec lui, mais bon, ça va, vous en avez assez entendu. Je sais quelle heure il est. Moins le quart déjà. Est-ce que vous avez... On termine maintenant, c'est parce qu'on devrait terminer maintenant. Hein. Est-ce que vous avez encore une question, ou deux, ou trois, pas plus? Et est-ce que, voilà, nous pouvons conclure sur cette journée? Alors, lequel?
Celui qu'on chante, symbolique.
Oui, mais je ne l'ai pas ici. Mais c'est lequel? L'amour éthique est de même. Ah non, ça c'est autre chose.
C'est
le testament de Saint François.
Louis, sois-tu, Louis,
sois-tu. Oui, c'en est. Alors,
oui, je... Louis, sois-tu. Mais si c'est pas bien, la joie, la
femme. Je vais me permettre de téléphoner dans l'église, mais c'est pour Dieu.
C'est l'hymne à la joie.
L'hymne à la joie.
Oui, là. Mais je vais... J'ai une parole, mais c'est du livre de Saint François. Très haut, tout puissant, bon Seigneur, à toi louange, gloire, honneur. Pas ça qu'on chante.
Oui, Anne-Françoise. Est-ce que tu peux m'envoyer la prière du vendredi, la grande prière
je l'ai.
Tu es Père, deux Fils, Dieu Esprit. Ah, mais elle a tout, Colette. Non, mais il y a quelqu'un qui l'a ici. Bon, excuse-moi de t'avoir dérangé. Voilà, à plus tard.
C'est sur René qui m'a donné ça.
Merci. Alors, cette prière, j'aime beaucoup cette prière. Alors, elle a été inspirée. Il y a quelques prières qui ont été données par Mgr Maël, vraiment inspirées, et qui retrace en même temps l'esprit de Saint François. Oui, c'est le cantique des créatures que tu voulais dire, c'est ça. Hein. Alors, nous le connaissons dans ce... Parce que Mgr Maël, il nous a dit qu'il avait reçu de Saint François la mélodie originelle. Je ne l'ai pas là en latin, mais ça commence comme ça. Altissimo, onnipotente, bon Signore. Tu es onore laude, l'onore Dio. Je ne sais plus après. Mais c'était une mélopée comme ça, très moyenâgeuse. Et c'est le cantique déclaratique, mais en vieux, le vieil italien du XIIIe siècle, avec cette mélodie. Je vais, si vous voulez, ce qui peut résumer tout ce que nous avons dit aujourd'hui. Parce que nous n'avons pas cessé de célébrer l'amour. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais puisque la souffrance est une porte qui ouvre sur l'amour, alors c'est l'amour qui nous intéresse. Et c'est l'amour qui soudain vient adoucir, vient donner un sens, vient embellir, vient faire de la souffrance un arbre de vie. Dieu Père, Dieu Fils, Dieu Esprit, toi tout amour, toi toute bonté, toi toute compassion, élève-moi jusqu'à toi, hauteur que je ne saurais atteindre, mais élève-moi jusqu'au seuil de ton amour, afin que, dans cette lumière, mes yeux voient, mes oreilles entendent, et ma parole répande ta paix. Fais que je sois un avec mes frères, et que, dans cette unité en toi, nous soyons un avec ta création et chacune de tes créatures. Que cet amour qui nous unit et qui a sa source en toi soit un fleuve pour les assoiffés, un baume pour les blessés, une consolation pour les affligés, une béatitude pour les malheureux, une abondance pour les pauvres, une compagnie pour les isolés, un refuge pour les délaissés, une bénédiction pour les maudits, une nourriture pour les affamés, un réconfort pour les angoissés, une certitude pour les sceptiques, une providence pour les abandonnés. Et qu'ainsi, tous unis les uns avec les autres, les uns par les autres, les uns pour les autres, dans le don total de soi, nous soyons pour tous, maintenant et toujours, jusqu'à l'aube de la terre nouvelle, des guides vers le Dieu Père, le Dieu Fils, le Dieu Esprit, triunité de tout amour. Amen.
Amen. Amen.
Voilà. On va terminer sur cette prière. Et voilà. D'accord. Oui. Oui.
Parce que Marie, c'est quand même effectivement commun par rapport à la souffrance.
Ah, je voudrais vous faire partager. Nous avons célébré la Saint-Delais, la fête de Notre-Dame du Signe, qui est célébrée le 27 novembre. Vous savez, chez nous, c'est un lieu marial. Tous les samedis, d'ailleurs ce soir, là, il y a un office particulier. Comme c'est le dernier samedi du mois, il y a souvent l'hymne acatiste ou un office particulier qui rallonge évidemment, qui nous sert de vigile, en plus des vêpres. Et nous l'avons solennisé le 24 pour que le dimanche, évidemment, tout le monde puisse y participer. Et nous avons, il y avait une retraite du clergé, et nous avons, je vais peut-être quand même mettre ça en marche. Donc, à cette fête de Notre-Dame du Signe, qui tombait le 24 pour la sonaliser, ça tombait en même temps de la retraite du clergé. Nous étions là une douzaine de membres du clergé. Et nous avons médité cet aspect de la théologie qui mettait en rapport ce mystère de la création, ce mystère de la terre-mère avec ce mystère de la Marie, mère de Dieu. Donc c'était en même temps une préparation, et comme je vous disais tout à l'heure, c'est que prendre conscience que l'ensemble de la création aspire à être, comme nous le dit saint Paul, évidemment, à être libéré de la corruption, libéré de la chute, et que l'ensemble de la création attend que nous puissions nous retrouver ce chemin avec Dieu. Et donc on a célébré cette fête, et le soir à Vêpres, un petit peu avant les Vêpres, je sentais qu'il fallait que je dise quelque chose, mais parler peut-être de la Mère de Dieu, je ne savais pas trop quoi. Quelquefois, on peut percevoir des choses comme ça, puis enfin, ça ne donne pas grand-chose. Mais j'ai senti, juste avant Vêpres, vraiment sa présence, une présence très forte. Et je vous le fais partager parce qu'elle vous intéresse aussi. Merci de m'avoir rappelé ça, parce que Marie nous a été donnée comme pour être notre mère, celle qui nous conduit, celle qui nous protège, celle qui nous relève, celle qui répand sur nous l'immensité de son amour maternel, celle qui peut arracher de son Fils des grâces que nous n'imaginons même pas. Et le soir, juste avant Vêpres, voilà ce que la Mère de Dieu nous dit. Mes enfants, pourquoi vous ne me demandez pas tout ce dont vous avez besoin? Pourquoi vous êtes si loin de ma présence, moi qui suis toujours proche de vous? Je pourrais tout vous donner, tout ce qui est nécessaire pour que vous puissiez vivre pleinement une vie en Christ. Et puis, elle nous faisait comprendre que le fait de ne pas pouvoir nous donner son amour était une souffrance pour elle. Mais une souffrance d'une mère qui voit ses enfants perdus, ses enfants endormis, ses enfants qui n'ont pas conscience que le temps passe, que le monde aussi est en danger. C'est aussi un message ce soir qu'elle nous donne par rapport à tout ce que nous avons médité aujourd'hui. Elle est là et elle peut énormément nous apporter. Et elle peut opérer des miracles de guérison spirituelle, mais aussi parfois physique, quand c'est la volonté de Dieu. Elle peut soudain nous aider à franchir des obstacles qui nous paraissent impossibles à vue humaine. Ce soir, elle vient nous redire combien elle nous aime, combien elle nous attend, combien elle nous espère, et combien elle nous redit que jamais je ne vous abandonnerai, jamais je ne renoncerai à vous appeler. Je vous protège, avec moi vous êtes à l'abri sous mon manteau. Ensemble, nous pouvons manifester la gloire de Dieu. Ensemble, nous pouvons sauver le monde. Amen.
Amen. Amen.
On la chantera tout à l'heure, si tu veux. La balade de Notre-Dame.